La lecture du texte d'Isaïe aujourd'hui peut ne pas paraître immédiatement passionnante. Bon, le sens littéraire, c'est plutôt le sens historique, disons, peut ne pas forcément immédiatement retenir notre attention. En revanche, donc, de quoi s'agit-il? Jérusalem est cernée et tout le monde a la trouille. Et finalement, le raisonnement qui est mené par ces hommes, c'est un raisonnement sans Dieu. Ils oublient Dieu. Et ils ont pas, ils se sont pas souvenus que Dieu s'occupe d'eux. Et alors, ce qui peut particulièrement retenir notre attention, c'est la dernière phrase de cette première lecture, qui est différemment traduite selon les ouvrages, selon les auteurs qui traduisent. Et là, ce que j'ai trouvé était: si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Bon, j'aime bien cette traduction qui montre qu'il y a quelque chose de curieux dans cette phrase. Et en hébreu, même si on ne connaît pas l'hébreu, on peut entendre les sonorités. Il y a écrit Imlo ta'aminu, kilo te'amenu. Donc, on entend le verbe à la fin et on reconnaît les lettres du verbe Amen. Alors, c'est important. Anima amin en hébreu, ça veut dire j'adhère, je colle, je tiens. Donc cette phrase peut être lue dans plein de sens, c'est-à-dire qu'on peut dire: si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas croire. Si vous ne croyez pas en moi, vous ne pouvez pas tenir. Si vous ne croyez pas, vous ne croirez pas. Si vous ne tenez pas, vous ne tiendrez pas. Alors, c'est important de voir comment tenir à Dieu met l'homme debout. Et je trouve que ça éclaire singulièrement la lecture de l'Évangile, où Jésus déplore l'attitude de ces villes, donc en fait de ses habitants, parce qu'ils ont vu des miracles, peut-être même ils les ont reconnus, mais ils n'en ont tiré aucune conséquence. Jésus dira en Saint Jean, vous venez à moi parce que vous avez mangé du pain, mais vous n'allez pas regarder ce qu'il y a derrière, vous applaudissez la chanson, mais c'est qui le chanteur? Quel est le message? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous vous êtes intéressé à sa personne, à ce qu'il dit? Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Est-ce que vous l'avez laissé vous rencontrer? Et tout ça pour dire qu'un miracle, c'est un signe de quelque chose. Et il faut aller à ce quelque chose et non pas s'arrêter au signe et à la joie du signe. Donc il y a des conséquences, et la conséquence c'est une conversion. Jésus parle de conversion. Conversion en hébreu c'est la teshuva. Yashav, ça veut dire revenir. La teshuva c'est faire demi-tour, c'est se retourner. Et même si c'est une notion qui aujourd'hui je crois commence à se répandre un peu, et c'est bien, on connaît un peu mieux le sens des mots, il se trouve que... Lorsque l'évangile a été mis par écrit en grec, les traducteurs depuis l'araméen ont choisi comme mot grec amartano. Et amartano, étymologiquement, ça veut dire manquer le but, manquer la cible. Donc se retourner, c'est changer de direction. Tout ça est très important parce qu'en fond, si on ne se convertit pas, on demeure dans le péché. Jésus dira cette terrible phrase dans Saint Jean, vous mourrez dans votre péché. Vraiment le truc épouvantable. Parce que vous n'avez pas voulu reconnaître. Il y a un acte d'humilité hein, à poser, c'est indéniable. Dans la foi, il y a un acte d'humilité à poser. Peut-être qu'il nous appartient en partie à un moment ou à un autre, même si c'est toujours une grâce, mais il faut l'accepter, y consentir. Et précisément, il faut tenir à ce qui ne se vérifie pas immédiatement pour pouvoir tenir dans notre vie. Cette phrase d'Isaïe encore une fois. et donc se retourner, prendre la bonne direction. Le verbe pécher, c'est donc manquer la cible. Pour beaucoup de gens, pécher, c'est manquer à une règle. Non, la règle, elle est là pour nous indiquer la cible. Alors, si on a manqué à une règle, on va faire un péché parce qu'on va manquer la cible. Mais en soi, manquer une règle, c'est une imprudence. Alors, on peut dire que c'est un péché au sens large, hein. Voilà, ça, je pense que c'est important que nous ayons bien ça à l'esprit. En plus, cette richesse de cet évangile qui, donc, d'une certaine manière, accomplit cette parole d'Isaïe. Et donc, ça nous invite à être dans la reconnaissance de tout ce que nous voyons de beau dans le monde. Il y a de très belles choses. On parle surtout des moches, hein, souvent. Mais il y a de très belles choses. Il y a des choses qui arrivent tous les jours, qui ne sont pas à proprement parler des miracles. Mais est-ce que nous sommes dans l'action de grâce? Le soleil s'est levé ce matin. Les fleurs vont s'ouvrir tout à l'heure. Là où je suis, la mer va monter, elle va redescendre. Qu'est-ce qui lui a dit de s'arrêter, de remonter? Ça marche tous les jours comme ça. Oui, mais c'est quand même merveilleux. Enfin voilà, toutes ces choses extraordinaires que nous pouvons voir avec un regard d'enfant, précisément. Les enfants ont cette capacité de pouvoir, pas tous, pas toujours, entrer dans une certaine contemplation, parce qu'ils découvrent des choses qu'ils n'ont jamais vues. Voilà, ces fleurs dont Jésus dira Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'une d'entre elles. Enfin, quand même, quoi. Voilà, alors ça doit nous amener à quelque chose, à nous interroger, à nous émerveiller, à nous dire, mais qui est derrière ça? Alors, pour des chrétiens, nous le savons, mais est-ce que nous en tenons compte? Donc, que ce passage aujourd'hui soit l'occasion pour nous de savoir voir les belles choses, savoir les célébrer et d'en tirer conséquence. Seigneur, si tu as fait tout ça, d'abord je te rends grâce, je te bénis d'avoir fait tout ça. Et donc j'entre dans cette connaissance de toi, de Dieu, entrer dans la connaissance de Dieu, laisser Dieu nous connaître, nous approcher et nous transformer. C'est lui qui permet ce retour, cette teshuva, cette conversion. Eh bien, choisissons aujourd'hui encore plus, peut-être nous le faisons déjà, hein, de nous émerveiller de ce qui est beau et de ce qui glorifie Dieu, et ça évangélise le monde autour de nous. Amen.